Chapitre 7. L'histoire du peuple a commencé lorsque Dieu appela Abraham à quitter son pays et sa parenté pour se rendre dans le pays qu'il lui montrerait, où il deviendrait une grande nation. Cela nous est rapporté en Genèse 12, versets 1 à 3. C'est un événement qui a fait époque. Nous ne pouvons en effet manquer de remarquer que les chapitres 1 à 11 du livre de la Genèse couvre une période plus longue que celle qui remplit le reste de l'Ancien Testament. L'appel d'Abraham marque un nouveau départ dans les voies de Dieu envers la terre, et c'est à ce point qu'Étienne commence son discours. La Genèse nous dit que l'Éternel apparut à Abraham, mais Étienne le connaît et parle de lui sous un jour nouveau. L'Éternel qui est apparu à Abraham est le Dieu de gloire, le Dieu de scènes infiniment plus glorieuses que ce que le monde peut offrir, même sous ses aspects les meilleurs et les plus beaux. Cela explique sans doute comment Abraham, par la foi, a pu saisir les choses célestes dont il est parlé en Hébreux 11, versets 10 à 16. Appelé par le Dieu de gloire, il a eu au moins un aperçu de la cité et du pays où la gloire demeure. Étienne commence son discours par cette note élevée et le termine, comme nous le savons, par Jésus dans la gloire de Dieu. Le but principal de ce discours remarquable était manifestement d'amener le peuple à la conviction de leur culpabilité, tant celle de leur père que la leur, en résistant aux opérations de Dieu par son esprit tout au long de leur existence. Étienne insiste particulièrement sur ce qui s'est passé chaque fois que Dieu a suscité des serviteurs pour instituer quelque chose de nouveau dans leur histoire. Celle-ci a été marquée par toute une série de tournants plus ou moins significatifs. Le premier a été l'appel d'Abraham, mais ensuite il y a eu Joseph, Moïse, Josué, David, Salomon. Tous sont mentionnés, bien qu'Étienne s'attarde davantage sur les trois premiers que sur les trois derniers. Aucun d'entre eux n'a vraiment trouvé d'écho auprès d'eux, et même Joseph et Moïse ont été complètement rejetés au début. Il termine par la septième intervention, qui mettait dans l'ombre toutes les précédentes. La venue du juste, et c'est lui qu'il venait de mettre à mort. Étienne montre très clairement que les chefs juifs de son temps ne faisaient que répéter, sous une forme aggravée, le péché de leur père. Les patriarches vendirent Joseph en Égypte parce qu'ils étaient pleins d'envie, et Matthieu rapporte les efforts que fit Pilate pour relâcher Jésus, car il savait qu'il l'avait livré par envie. Pour Moïse aussi, qui t'a établi chef et juge sur nous ? Cette parole qui le fit s'enfuir a été prononcée par l'un de ses frères et non par un Égyptien. Sa réjection n'est pas venue de l'extérieur, elle est due aux siens. Pour Jésus, il en a été de même. Le chapitre 2 de l'Exode ne nous parle pas de la renommée et de la puissance de Moïse à la fin des 40 premières années de sa vie, dans les termes du verset 22 de notre chapitre. Il était un homme instruit, puissant dans ses paroles et dans ses actions, lorsqu'il lui vint au cœur de s'identifier à son propre peuple, qui était le peuple de Dieu. Après ce pas, il a dû éprouver un choc terrible en voyant qu'il était rejeté par eux. À la parole de l'un d'entre eux, il s'enfuit. Nous lisons en Hébreux 11, verset 27, qu'il ne craignit pas la colère du roi, toutefois il ne put supporter ce refus de la part des siens. Il avait agi dans la conscience de ses capacités exceptionnelles, et maintenant il devait être instruit par Dieu derrière le désert pendant 40 ans pour apprendre que ses capacités n'étaient rien et que la puissance de Dieu était tout. En cela, il est en contraste avec notre Seigneur, bien qu'il en soit un type dans la réjection qu'il a dû connaître. Leurs pères ont rejeté une nouvelle fois ce Moïse après qu'il les eut délivrés de leur captivité et conduits dans le désert. En le rejetant, c'est en fait l'Éternel qu'il rejetait, pour se livrer à l'idolâtrie sous une forme très grossière. Non seulement lorsqu'ils furent dans le pays, mais dans le désert déjà, ils étaient négligents à l'égard des sacrifices à l'Éternel et se livraient aux idoles, préparant ainsi la voie de la captivité à Babylone. Dieu avait pourtant encore suscité David, et puis Salomon avait construit le temple. Mais eux se glorifiaient de la maison. Voir Jérémie 7, verset 4, comme si la simple possession de ces bâtiments garantissait tout. Alors qu'en fait, Dieu habite dans les cieux des cieux, bien au-delà des plus magnifiques édifices de la terre. Les dernières paroles d'Étienne, versets 51 à 53, sont empreintes d'une grande puissance. Elles constituent une sorte d'appendice aux paroles du Seigneur lui-même, rapportées en Matthieu 23, versets 31 à 36, et terminent l'acte d'accusation par la terrible conclusion qu'ils ont livré et mis à mort le juste. Leur position devant Dieu était fondée sur la loi, et bien qu'ils l'aient reçue par la disposition des anges, ils ne l'avaient pas gardée. La loi transgressée par une idolâtrie flagrante et la mise à mort du Messie, voilà les deux grands chefs d'accusation contre les Juifs, et les deux sont mis en évidence à la fin du discours d'Étienne. Par la bouche d'Étienne, le Saint-Esprit avait complètement retourné la situation, et les persécuteurs d'Étienne se trouvent maintenant au banc des accusés, au lieu d'occuper les sièges des juges. La manière abrupte dont Étienne termine son récit historique pour prononcer l'accusation de Dieu contre eux doit avoir conféré une puissance toute particulière à ses paroles. Le coup porte, ils sont remplis de rage. Une seule personne est calme, et c'est évidemment Étienne. Plein de l'esprit, il a une vision surnaturelle de la gloire de Dieu et de Jésus dans cette gloire, et il rend aussitôt témoignage de ce qu'il voit. Ézéchiel avait vu la ressemblance d'un trône, et une ressemblance comme l'aspect d'un homme dessus en haut. Chapitre 1, verset 26. Étienne, lui, voit non pas simplement une ressemblance ou un aspect, mais l'homme lui-même, debout à la droite de Dieu. Jésus, celui qui a été crucifié, est maintenant l'homme à la droite de Dieu. Il est le puissant chef par qui Dieu administrera l'univers. Dans son discours, Étienne avait mentionné que Joseph était devenu le sauveur de ses frères, malgré son rejet par eux, et que, finalement, ils avaient tous dû se prosterner devant lui. Il avait aussi rappelé que Moïse, qui avait d'abord été rejeté, était devenu à la fois le conducteur et le libérateur d'Israël. Maintenant, il rend témoignage d'un fait semblable, mais infiniment plus grand en relation avec Jésus. Le juste qu'ils ont mis à mort va devenir leur juge, et à la fin, pour ceux qui le reçoivent, il sera le grand libérateur. Sa présence dans la gloire en était le gage, et Étienne le voyait là. Tout à fait incapable de réfuter les paroles d'Étienne ou de leur résister, les chefs juifs se précipitent sur lui pour le mettre à mort, accomplissant ainsi les paroles du Seigneur, rapportées en Luc 19, verset 14, où nous lisons qu'après le départ de l'homme noble, ses concitoyens qui le haïssaient envoyèrent après lui une ambassade disant « Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous ». Jésus était encore debout dans la gloire. Il était prêt à accomplir ce que Pierre avait annoncé au chapitre 3, verset 20, si seulement il se repentait. Ils ne se repentent pas, mais scellent violemment leur refus en lapidant Étienne, l'envoyant à la suite de son maître. Un jeune homme nommé Saul occupe une place importante en relation avec ce meurtre. Il consent à cette mort et joue en quelque sorte le rôle de superviseur de son exécution. Ainsi, l'histoire de Saul commence au point où s'achève celle d'Étienne. Étienne, le premier martyr chrétien, termine sa courte et remarquable carrière comme son Seigneur. Plein de l'Esprit, il a la vision de Jésus dans la gloire. Il n'a rien de plus à dire aux hommes. Ses dernières paroles sont adressées à son Seigneur. Il lui remet son esprit, et s'étant mis à genoux, il prie pour ses meurtriers. Qui aurait jamais pu prévoir la réponse merveilleuse que lui accorde son Seigneur glorifié? La conversion de Saul, un meurtrier par excellence. La prière que le Seigneur Jésus fit monter sur la croix pour ses meurtriers a été exaucée par la prédication de l'Évangile, en commençant par Jérusalem. La prière d'Étienne l'a été par la conversion de Saul. Le chapitre 22, verset 20, montre que Saul ne l'a jamais oublié.